pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 186. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et on va parler aujourd'hui, sans doute, de ce petit machin en plastique qu'on a reçu, toi et moi, enfin, toi aux États-Unis et moi en France, ce soir. La Switch 2, on s'est dit, c'est le sujet du moment. C'est une console Nintendo de plus.
Pour une fois, on est dans l'actu. On est dans l'actu, là. Là, on peut pas faire plus dans l'actu. Je l'ai eu la semaine dernière.
Alors, on pourrait faire plus dans l'actu parce qu'on a fait un live dessus avec Soumi Massen Turbo. Un live qui a commencé à 20h et qui s'est terminé un peu plus que minuit 30, minuit 40, quelque chose comme ça. Donc, on était bien en forme, je peux te dire après. Ouais. J'ai bien dormi.
4 heures sur le Welcome Tour, j'imagine.
Tu sais que j'ai toujours pas vraiment joué au Welcome Tour, en fait, parce qu'on a regardé en live le Welcome Tour. On s'est dit, c'est pas génial à montrer, en fait, à l'écran.
Bah, moi, j'ai pas joué non plus parce que c'est hors de question que je dépense 10 balles pour ça. Donc, je ne l'ai pas acheté. Voilà.
Voilà. Tu ne fais pas marcher l'économie. Et le petit producteur de Kyoto.
Voilà. Je ne soutiens pas le petit artisan de Kyoto.
Le petit artisan de Kyoto est orphelin à cause de toi. Et par ta faute, ils vont être obligés de sortir Wii Music 2.
Oh là là.
Et Mitomo 6.
Wii Play HD.
Mais tu sais qu'en plus, je rigolais, mais la génération Mitomo et tout ça, c'est typiquement la nostalgie DS, 3DS qui va fonctionner dans 3-4 ans, en fait. Ils ont vraiment raison de faire ça. Ils ont complètement raison de... D'ailleurs, c'est en ce moment, c'est Fantasy Life qui cartonne. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler.
Ouais.
Mais Benji... Comment vas-tu en cette période troublée de Californie, puisque je sais qu'il y a plein de gens qui parlent de Californie.
Ah bah troublée, puisque tu le sais, j'habite donc à côté d'une ville qui est ce haut lieu de crime et de non-lieu, tu vois.
Et de sédition.
De non-droit, voilà, et de sédition, oui, puisque comme l'a dit la la directrice du département de la sécurité intérieure, Los Angeles est une ville à feu et à sang. Enfin voilà quoi, c'était du grand n'importe quoi ces dernières semaines. Donc il a fallu que je réconforte plein de gens qui s'inquiétaient énormément pour moi, mais moi ça va. Hein. Moi je honnêtement, même si j'habitais à Los Angeles, et je n'habite pas à Los Angeles, j'habite juste à côté à Burbank, mais même si j'habitais à Los Angeles, tout ce qui est protestation et entre gros guillemets émeute, parce que c'était pas vraiment des émeutes, c'était restreint à un tout petit bloc à Downtown LA. Et évidemment, les médias conservateurs ont essayé de faire croire que c'était vraiment une zone de non-droit. C'est absolument pas le cas. Le problème, c'est que les médias mainstream qui ont repris ça et les médias internationaux qui ont eux aussi repris ça, heureusement qui, depuis, ont corrigé le tir. J'ai vu que les médias français avaient depuis... peut-être pas fait une sorte de mea culpa, mais au moins avaient remis les points sur les i, genre bon, en fait, non, c'est pas si grave que ce qu'on pensait. Donc voilà, donc moi ça va. Hein. Honnêtement, j'ai absolument.
D'accord.
Voilà, je n'ai pas vu de Marines dans les rues. Je n'ai pas vu la garde nationale non plus. Je suis assez pépouze là où je suis. Donc.
Écoute, no kings comme on dit. Et comme disait un ami qui a fait les manifestations en Pennsylvanie, j'en parle de temps en temps de cet ami. Lui, il est défilé avec un panneau. Je n'ai qu'un seul roi. I have only one king. C'est Jack Kirby. Et voilà, lui, il est très Jack Kirbyste.
Moi, j'ai vu un panneau, le seul roi que je reconnais, c'est Burger King. Donc, tu vois, c'est
bah, ça.
Même idée, mais pas le même contexte.
Clairement. Et Benji, il y a aussi plein de choses qui nous sont arrivées, à part la Switch 2, puisque on a... Tu me disais avec malice, mais on n'a toujours pas parlé de Thunderbolts.
Ben oui.
Mais on n'a toujours pas passé une Mission Impossible, ni de Ballerina. Et ce matin, je me suis farci Ballerina.
Alors, ça tu vois, ça c'est bien, c'est dans l'actu, parce que Mission Impossible et Thunderbolts, pour le coup, c'est pas trop dans l'actu.
Non, pas trop.
Mais c'est pas mal, maintenant, les gens ont eu le temps de le voir, donc on va pouvoir peut-être un peu spoiler, quoi.
Je sais pas s'il y a vraiment à spoiler, parce que j'ai l'impression que tout est dans la presse, que... en plus, c'est un film avec Keanu Reeves.
Ah, tu parles de Ballerina. Moi, je parlais de Mission Impossible et Thunderbolts. Parce que Ballerina, non, évite de me le spoiler. Je ne l'ai pas encore vu, s'il te plaît.
Ah, tu sais qu'il y a Keanu Reeves quand même dedans.
J'ai vu dans le trailer qu'il y a Keanu Reeves dedans.
Il y a quand même Keanu Reeves dedans.
Que donc, ça se déroule avant John Wick 4.
Écoute, je vais juste te dire que c'était un peu, tu vois le film malade. Mmh. Tu vois le film qui a été monté, remonté, re-shooté. Il y a vraiment des scènes où tu te dis, ah, ça c'est Réal 1, ça c'est Len Wiseman, ça c'est Chad. Tu sais
qui... Chad Stahelski, oui. Bah oui, je sais que Chad Stahelski a été appelé pour pas mal de re-shoots et apparemment ça se voit vraiment, en fait, ces scènes à lui par rapport à celles de Wiseman.
Ça se voit vraiment et tu vois son style et tu vois, en fait, le genre de stunts qu'il a l'habitude de faire. Et Len Wiseman, bon, tu vois, il met la caméra sur un pied et il filme, quoi, tu vois.
Puis quand il a pas le boule de Kate Beckinsale à filmer, il sait pas quoi filmer, c'est ça?
Pardon, le fessier de sa femme.
Oui, si tu veux.
Oui, non, mais c'est... Il a réalisé littéralement une trilogie Underworld autour de délire de sa femme en billet en cuir, quoi.
Bah oui.
Et ça s'est vendu là-dessus, mais bon. Bah, Ballerina, c'est pas ouf, je te cache pas que ça va pas aller haut. Contrairement à un autre film que je te recommande vraiment, qui s'appelle Working Man. Est-ce que tu en as entendu parler?
Alors, j'en ai entendu parler puisque c'est la nouvelle collaboration David Ayer et Jason Statham. Je ne l'ai pas vu, alors que je dois te dire que Beekeeper est quand même un sacré plaisir coupable.
C'est un peu Beekeeper-esque quand même. C'est vraiment pas fino.
Ouais.
C'est alors évidemment, il a un nom à sortir de dehors. Il s'appelle Levon Cade.
Pourquoi pas? Écoute, moi je suis preneur.
J'adore les noms de Jason Statham. Et je suis un petit peu biaisé. Il faut que je te le dise, on pourra pas le classer dans le top de le blockbuster, tu sais pourquoi?
Déjà parce que c'est pas un blockbuster.
Oui, ouais, c'est pas un blockbuster. Ouais.
Déjà, hein, c'est une bonne raison, je trouve.
Oui, c'est un direct to Amazon, tu sens qu'ils ont pas le budget habituel et tout. Mais il y a un truc important, c'est que j'ai un ami d'enfance qui joue dedans, et littéralement c'est la première personne qui parle dans le film.
C'est Jason?
C'est pas Jason.
Ah merde. Dommage.
Et alors, je le connais, on était ensemble en primaire, ensuite on a fait, je crois, une classe en secondaire. Et c'est, on peut pas le manquer, il est très très beau. Il est très très beau.
Après, c'est un ami d'enfance, mais est-ce que c'est quelqu'un à qui tu as parlé depuis 20 ans ailleurs que sur Facebook?
Oui, parce qu'on a repris contact.
Ah, d'accord.
On a repris.
Suite à ce film ou avant?
On a repris contact. Non, avant, on a repris
avant,
contact.
Avant, d'accord.
Il est, évidemment, c'est un acteur, il est difficile à happer, mais c'est un acteur, c'est un comédien, tu sais comment ça marche, le star system.
Écoute, si tu le dis, moi je sais pas trop comment ça marche, en vrai je connais pas beaucoup d'acteurs.
Il est français, mais je me souviens, j'étais chez lui parce que je jouais à la Master System chez lui.
D'accord.
Non, plutôt je jouais à la NES parce que lui...
Toi tu avais une Master System.
Souviens-toi comment était la vie. Il y avait les Master System, c'était le peuple, et la NES c'était les bourgeois, tu vois.
Ouais.
Et il avait la NES, et on allait faire un truc, une astuce, on allait à la Fnac qui était pas loin, et il arrivait, il disait, ah, j'aime le jeu, j'y arrive pas, j'aime pas le jeu. Et à l'époque, la Fnac, il te changeait de jeu simplement parce que tu disais, j'étais pas content du jeu, quoi. S'il était très gentil. Et je me souviens qu'on était passé de... Il avait Castlevania et on a changé Castlevania pour Goonies. Et quelle connerie, vraiment, on a fait. C'est vraiment horrible choix.
Ouais.
Mais donc, maintenant, ce garçon a fait carrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue un hispanique.
Il a remboursé la Fnac depuis maintenant, parce que quand même... Hein,
de quoi?
Bah, je sais pas, il a quand même un peu escroqué la Fnac toutes ces années.
Et j'hésite à dire son nom maintenant.
Bah ouais, mais c'est toi, tu balances.
Mais ce qui est assez rigolo, c'est que il est... mais en fait, parce qu'il a fait carrière en Espagne, en fait. Il a un espagnol parfait.
D'accord.
Et alors moi, je le connais. Son père était suédois et sa mère était française, originaire du Caire. Alors c'est vraiment c'est un mélange assez explosif.
Un beau métissage.
Ouais. Ah, c'est un beau métissage, ça c'est sûr et certain. Mm. Maintenant, grâce à Jason Statham, il a son moment pour briller. Et sinon, le film, il est Jason Statham-esque, quoi. Je crois que il ne se donne pas de mal. C'est-à-dire que même physiquement, je crois qu'il prend pas un coup. Je crois que dans son contrat, il y a marqué, tu prendras même pas un ion, quoi. Et je crois pas qu'il prenne un seul coup.
Je suis sur IMDb et je vois qui sont les auteurs scénaristes de cette chose.
Ouais.
Et alors, bon, il y a David Ayer, le réalisateur, mais il y a aussi Chuck Dixon. Tu te souviens de Chuck Dixon?
Bien sûr, le scénariste de BD, Chuck Dixon.
Voilà, c'est un auteur de comic book qui est un ultra conservateur et qui a la gueule qui va avec.
C'est-à-dire, il a tourné dans sa direction, j'allais dire, il a mal tourné. Il a tourné dans cette direction un peu houleuse. Et en plus, au moment où lui, tu sais, genre, il touchait à Captain America et des trucs comme ça.
Ouais.
Et au moment où Marvel a intelligemment dit, Chuck,
va faire autre chose.
Pas la peine.
Voilà.
Pas la peine. Il y a d'autres choses à faire. Tu sais, c'est le syndrome Frank Miller. Je passe pour un nanar de gauche et en fait, je fais un truc sur le 9/11 et tout d'un coup, j'ai Batman dedans. Et là, il y a un mec qui est chez DC qui a fait.
Peut-être pas.
Franck, fais pas ça, fais pas ça. Et tu sais quoi, ce mec-là, à chaque fois j'y pense, je me dis, il faut une médaille pour ce mec.
Oui, pour le mec qui a dit à Frank Miller, c'est peut-être pas une bonne idée.
Ouais.
Mais Chuck Dixon, il continue en attendant, et il continue de son côté, et il écrit des trucs à l'heure actuelle qui sont vraiment, on va dire turbo de droite, quoi. C'est vraiment très compliqué, les trucs qu'il écrit à l'heure actuelle, Chuck Dixon. Et co-auteur, il y a aussi Sylvester Stallone.
Oui, c'est né de Sly.
Voilà.
Et d'après mes souvenirs, parce que ça remonte déjà, il y a un truc similaire avec Ballerina, c'est que les méchants sont des Russes, un petit peu.
D'accord.
Tu vois, genre, ils sont un peu de l'Est, c'est la mafia de l'Est, voilà, je me sens à chaque fois pas du tout visé. Je trouve qu'ils parlent mieux les gens de l'Est dans le David Ayer qu'à Ballerina.
D'accord.
Ballerina, j'y crois pas.
Pour finir sur les auteurs, Levon Cade, c'est parce que c'est Chuck Dixon qui a écrit ces bouquins-là, en fait. Il a écrit des romans, Levon Cade. Donc voilà, tu sais tout.
Oh là là. Mais écoute, c'est sur Amazon Prime. Comme Beekeepa.
Oui, exactement. Comme Beekeepa.
Je pense que Beekeepa, et c'est beaucoup plus facile à dire, il faut que je dise aux auditeurs, je parle en apnée parce que c'est la période du pollen et j'arrive pas à respirer. Je peux pas respirer par le nez, là, en ce moment. Donc. Je suis en apnée, exactement, et j'ai pas besoin de me forcer pour dire Beekeeper, qui est encore le classique moderne de Jason Statham.
Mais par rapport à Beekeeper, alors est-ce que Working Man c'est la même chose? C'est genre des montagnes russes, tu t'installes confortablement et puis tu te laisses entraîner et c'est débile de début à la fin ou
Alors j'ai envie de dire, quand mon pote n'est plus à l'écran, c'est moins bien. Et il est qu'au début.
D'accord.
Non mais c'est vrai, hein, c'est vraiment beaucoup moins bien.
Allons, on fait pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira.
Bon bah on va glisser peut-être sur cette filmo. Je sais que t'as pas aimé Mission Impossible.
Non, j'ai pas. On peut pas dire que j'ai aimé Mission Impossible. Moi, perso, je sauve une scène qui se passe sous l'eau, dans laquelle Tom infiltre un sous-marin, hein, le fameux sous-marin qui nous est teasé dès la scène d'ouverture du précédent Mission Impossible. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette scène. La scène des avions, je vois bien que, ok, c'est cool, c'est tout fait en vrai, mais en fait, cette scène m'a passablement ennuyé, en fait. Et tout ce qu'il y a avant...
Ouais, j'ai trouvé ça incroyable.
Tout ce qu'il y a avant le sous-marin, j'ai trouvé ça nul à chier. Mais vraiment, la première heure, j'ai passé une première heure horrible en me demandant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Avec des événements qui s'enchaînent sans trop de liant, avec des trucs qui... Enfin, ça n'a aucun sens, c'est vraiment une catastrophe.
Je vais être très sincère, j'ai failli pas me réveiller pour le sous-marin tellement c'était chiant.
Ah non, mais je te crois, hein, je te crois sans problème.
C'était vraiment genre, oh là là, où ils vont ? Et ensuite, t'as des genre, ils essayent de faire un loop avec Mission Impossible, la série, et là, je fais, non, arrêtez les mecs.
Ah oui, et alors il y a des trucs genre, putain, les 12 fois, on te montre la scène de Mission Impossible 1 pour te dire, hey, souviens-toi, t'as vu ce personnage-là, c'est le mec du 1. Et alors, le twist sorti de nulle part qui fait un loop sur la série, sur Jim Phelps. Mais qu'est-ce que c'est que cette écriture? Enfin, je veux dire, qui a eu cette idée? Et pourquoi est-ce qu'il a encore un métier dans cette industrie, quoi? Non, c'était abominable.
Ils nous pardonneront pas, on pardonnera pas la disparition du meilleur perso.
Ah, on ne pardonnera jamais la disparition du meilleur perso. Surtout qu'en plus, enfin, je veux dire, alors, c'est peut-être parce que l'actrice en avait marre, je ne sais pas.
C'est dur d'exister avec Tom Cruise.
C'est difficile. Et il y a une scène, là, dans celui-là, où tu te dis clairement, c'était pas écrit pour ce personnage-là, quoi. C'était écrit pour elle. Et ou alors ça aurait dû être elle parce qu'il y a vraiment un problème entre ces personnages, mais il y a tellement de trucs qui vont pas. Enfin, il y a un personnage qui meurt dans celui-là, tu te dis mais ça a servi à quoi de le tuer? Ça sort tellement de nulle part aussi. Enfin bref, il y a vraiment.
Ah oui, je me souviens. Ça y est, je me souviens de qui meurt. C'est.
Mais oui, et puis non, mais il y a rien qui va en fait dans ce 8. Je sauve la scène du sous-marin, mais pour moi, le film va faire une The Predator au classement des blockbusters parce que c'est juste pas possible, quoi. C'est vraiment.
Moi, la scène de l'avion, je regarde souvent le making-of, je le trouve incroyable, quoi, à chaque fois.
Ouais, mais tu vois, moi, je pense que la scène de l'avion, c'est comme la scène du saut en moto dans le set. Le making-of, ça plus intéressant que ce que tu vois dans le film, en fait.
Alors, la scène du moto, je la trouve moins ouf, là. Vraiment, celle de l'avion, c'est beaucoup plus conscient parce que quand tu sais. la friction que c'est de marcher sur un avion, enfin de marcher sur un avion, de crapahuter sur un avion. Et le, enfin, le, tu te prends, c'est comme si tu te prenais des coups de poing dans la gueule, quoi. C'est vraiment genre, t'as déjà passé ta main sur l'autoroute par la fenêtre, tu vois. Tu peux pas tenir à 200 à l'heure.
Bah ouais, mais.
Là, il tient trois fois la vitesse, quoi.
Mais à l'écran, pour moi, ça rend pas du tout, quoi. Je suis désolé. Et puis surtout, ah ouais, en plus, ça n'a aucun sens qu'il y ait deux avions, déjà, à la base. Je veux dire, c'est tellement idiot. Enfin, les mecs qui sont dans le deuxième avion.
Ils ont fait deux hélicoptères, déjà.
Mais les mecs qui sont là dans le deuxième avion, t'as l'impression que c'est des figurant, il y en a un qui est là juste pour tenir un MacGuffin. Et le type, déjà, quand il apparaît à l'écran, avant même d'être dans l'avion, je dis, mais attends, c'est pas possible, ça, c'est un figurant à qui ils ont demandé d'être là juste parce qu'ils avaient besoin d'un gars. Enfin, vraiment, il y a tellement rien qui va. Ah non, je peux pas, moi. Cette scène en avion, elle m'a vraiment.
Écoute, moi, je la trouve brillante. Et à chaque fois que je vois le making-of et en plus, je vois la perf quand même, à la fois physique et aussi le fait de réaliser ça, parce qu'il faut le réaliser. Et c'est presque que Tom Cruise qui réalise son film, puisque c'est lui qui doit aligner souvent l'appareil pour que ça soit bien par rapport à l'image, enfin, par rapport à la lumière, enfin. Ça me paraît fou, ce genre de. Mais voilà, est-ce qu'on est dans la perf? Est-ce qu'on est plutôt dans le cinéma?
Moi, j'ai l'impression que tu parles plus de la performance technique et du making-of.
Ouais, je trouve ça incroyable.
Que de la manière dont la scène fonctionne, parce que la scène. À la fin, elle fonctionne pas, quoi.
Moi, j'ai retenu ma respi quand même. Là, quand ils font des loopings, je vais, oh putain. Alors, en même temps, en sachant que il y avait Tom Cruise à Cannes, on savait qu'il était pas mort.
Oui.
Il était là à faire chier les gens. Eh, manger du popcorn. Tom, ça va. On mange du popcorn si on veut, ça suffit. Et puis, bah, écoute, on a à peine parlé de Thunderbolts, mais est-ce vraiment la peine? Est-ce qu'il a pas fait les thunes qu'il fallait? C'est déjà ça.
Je crois qu'il est rentré dans ses frais, voilà.
Je sais pas s'il a break-even, hein, je suis pas sûr.
Si, je pense qu'il a break-even, mais parce qu'ils l'ont pas tellement marketé au final, vu qu'il y avait peu d'attentes, donc il a fait largement son budget. Moi, écoute, Thunderbolt, c'était vraiment une super surprise. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui finalement n'y sont pas allés parce que ça les intéressait pas ou qu'ils s'étaient dit, bon, c'est un Marvel, low stakes, c'est pas très intéressant. Et en fait, c'est vraiment. Je trouve que, étant donné que c'était un Marvel que justement personne n'attendait et low stakes, ben, ils ont essayé des trucs. Et pour une fois, on n'a pas le leitmotiv de oh là là, il y a un grand méchant qui détruit la moitié de la ville et t'as une immense baston et tout. Ils ont essayé d'autres trucs et j'ai trouvé ça vachement plus intéressant. J'ai trouvé que c'était un film qui avait du cœur, qui faisait des trucs vraiment. Pour une fois, voilà, plus intéressant, et c'est une équipe que j'ai envie de revoir, quoi. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment super chouettes et pas forcément archi développés, notamment un ou deux où ils sont quasiment pas existants, mais que globalement, bon, Florence Pugh tient le film sur ses épaules, y a pas à chier, mais que même le fils Russell se démerde pas mal et que même le mec qui joue Sentry, il est plutôt cool et non, vraiment, j'ai passé un super moment au final.
Super, je dirais pas ça, mais ouais, c'est. Disons que on a un petit peu plus l'impression qu'ils savent où ils vont. Je suis toujours un peu pas triste, mais genre perplexe devant le choix du line-up, puisque quand même Marvel c'est le plus grand bac à jouets de l'univers, et puis bah ils nous sortent des, ils veulent nous ramener encore Red Guardian et tout ça, genre. Ok, on l'a vu, hein, Red Guardian, c'est bon. Et ils nous ramènent toute la division russe là, ça suffit.
J'en peux plus. Non mais. Moi, la rédaction s'engage, j'ai passé un meilleur moment que devant Mission Impossible.
Ah, écoute, on verra la délibération.
En plus, c'était plus court.
Alors, je crois qu'il fait qu'une heure quarante ou quelque chose comme ça.
En tout cas, il dépasse pas les deux heures. Comme on dit en anglais, il n'overstay pas son welcome. Voilà, c'était du franglais, ça me fait plaisir.
Je n'utilise jamais, c'est dire à quel point c'est élitiste comme expression. Ouais. Bah écoute, on discutera encore de toutes les autres nouveautés, puisque ça va être la saison des blockbusters qui s'ouvre là bientôt.
Bah là, ça va s'enchaîner, là va y en avoir une quantité assez hallucinante dans les semaines qui viennent, donc faut vite que je vois Ballerina avant de plus avoir le temps.
On reviendra au fur et à mesure, et n'oublie pas Working Man, n'oublie pas, ce béquier pas.
Et je vais regarder Working Man sur Amazon, voilà. Même si, je crois qu'il a une sortie limitée au ciné aux US, mais j'ai raté donc.
Le bois ne rend pas les coups.
Benji, tu as reçu ta Switch 2 ?
J'ai reçu ma Switch 2 que j'ai donc précommandée comme un bon gros pigeon, alors qu'à la base, j'envisageais vraiment pas de la précommander. Mais en fait, j'ai eu peur des droits de douane et je me suis dit, vaut mieux que je l'achète maintenant si jamais dans 6 mois elle passe à $700. Donc voilà.
Ah, c'est vraiment le coût des droits de douane qui t'ont.
Ah, c'est vraiment ça qui m'a motivé, oui. Bah attends, tu sais, on vit à une époque où les consoles, elles augmentent de prix. Je te rappelle que la PS5, elle coûte toujours plus cher maintenant qu'elle ne coûtait à sa sortie, quoi.
Et ça, c'est fou, hein. C'est que, avant, on disait, ah, les gens en Day One, c'est les pigeons. Et maintenant, les gens qui ont acheté leur PS5, surtout au Japon, en Day One, ils peuvent la revendre plus cher en occasion.
Ouais, ouais, c'est ouf, hein.
Ouais, c'est une nouvelle.
Donc, pour la Switch 2, vraiment, c'est les droits de douane qui m'ont fait peur quand j'ai vu à quelle hauteur
ils ont fait peur à Nintendo surtout.
Ah oui, ils ont fait peur à tout le monde. Enfin, Nintendo qui a repoussé ses préventes à cause de ça, qui au final a gardé le même tarif, mais on ne sait pas si le prochain réapprovisionnement sera au même tarif. Enfin bref, voilà, c'est
peut-être grâce à ça les bons chiffres apparemment. Ils ont fait 3 millions de ventes, hein, a priori.
Ouais, 3,5 il me semble.
En 5 jours à peine. Écoute, c'est à la fois très encourageant, mais disons que vu la conjoncture, c'est-à-dire les frais douaniers. Vu le prix qui est quand même à 30% plus cher, environ, plus le jeu, plus les goodies, plus globalement le faible nouveauté, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, je pense que ils ne pouvaient pas rêver d'un meilleur score, quoi. C'est un score assez hallucinant. Pour un launch.
Le score est excellent. Après, au niveau du prix, vu la technologie embarquée, je trouve pas le prix si déconnant que ça. C'est vrai qu'à son annonce, on a été un peu horrifié, genre la vache, c'est une des consoles de Nintendo les plus chères à son lancement. Si c'est pas la plus chère à son lancement, même en comptant l'inflation. Mais quand on voit la techno embarquée, au final, le prix est pas si déconnant, hein. On est sur une machine finalement qui est d'une puissance. Honnêtement, moi quand je compare les jeux, quand je compare notamment les jeux multi comme Street Fighter 6, qui est largement plus beau sur Switch 2 qu'il ne peut l'être sur Steam Deck, on est sur une machine qui est plus puissante qu'un Steam Deck et qui est vendue avec le dock. Donc finalement au niveau tarif, on n'est pas si mal, quoi. Je trouve que la console vaut son prix au final, vu le hardware dedans. C'est pas une escroquerie, quoi.
Moi, j'ai pas encore ce sentiment-là, mais on verra. D'abord, on va parler des constatations, puisque là, on est à plus d'une semaine. Qu'est-ce qu'elle chauffe? Ok, elle est puissante et tout, mais genre, j'y joue beaucoup en docké en ce moment, parce que comme ça, mon fils, il peut voir, et puis on peut profiter un peu. Et aussi, j'ai un peu streamé Mario Kart. Qu'est-ce qu'elle chauffe? C'est incroyable, hein. Je veux bien que ça soit technologiquement plus avancé. Mais tu m'étonnes qu'ils ont rajouté des ventilos à l'intérieur du dock. Parce que faut calmer cette chaleur, là. C'est incroyable.
Ouais, j'y ai joué uniquement docké jusqu'ici, donc je m'en suis pas rendu compte, parce qu'en fait, je l'ai pas prise en main après avoir joué, mais je te crois.
Ah, c'est très, 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 très impressionnant. Hein. Écoute, après, tu sais, il y a toujours ce ratio technologie contre utilisation, c'est-à-dire, prenons un jeu comme par exemple Cyberpunk. Tu vois, Cyberpunk, on peut me dire, ah, il tourne sur PC avec machin, avec tous les détails et tout ça. Mais je dis, oui, mais regarde la technologie qu'il faut pour faire tourner ton PC, l'électricité pour faire tourner ton PC. Enfin, genre, tout ce que tu as, tout ce dont tu as besoin en termes, pas juste ce qu'on appelle le bilan carbone, mais tu vois, juste toute l'énergie nécessaire à faire tourner ta machine.
Ouais.
Alors que là, ça tient dans ta main. Alors, c'est pas exactement la même finition, loin de là, hein, vraiment loin de là.
Non, mais le portage a l'air vraiment chouette, hein, de tout ce que j'ai pu voir de Cyberpunk.
Bah, je ne m'avance pas sur celui-là, je ne l'ai pas vu. Par contre, ce que ça a engendré chez moi, c'est que j'ai commencé à rejouer à des vieux jeux. C'est le truc que même ceux qui ont rien d'ajouté, mais tout d'un coup je me suis revu, j'ai remis Smash Bros,
ouais,
pour y jouer devant mon fils, parce qu'il voulait voir. Ah, il dit, ah, qu'est-ce que c'est, parce
qu'il y a pas eu un petit patch performance, parce qu'il y en a un sur Odyssey par exemple,
Smash Bros, et je pense que s'il y a une raison particulière pourquoi il n'y en a pas sur Smash Bros, c'est que Smash Bros, il est très compétitif, et que si tu fais un patch, il faut que tu fasses un patch aussi sur les versions Switch 1 pour qu'elles tournent exactement pareil, quoi. Et du coup, ça les engage à autre chose, et il faut faire un truc un peu plus massif, et c'est pour ça que je pense qu'ils veulent surtout pas changer les performances de Smash Bros. Mais enfin, en tout cas pour l'instant.
Ouais.
Par contre, j'ai rejoué donc Smash Bros, qui était assez plaisant, puisque j'ai repris donc, tu sais, avec le transvasage de console, les sauvegardes, c'était un bordel. Je me suis dit, tu sais quoi, on va repartir de zéro en Smash Bros. On va le passer en russe, évidemment, parce que si c'est... Il y a le speaker qui parle russe, c'est trop puissant. C'est le seul Smash Bros. Qui fait ça, quoi. Et on va jouer avec mon fils. Donc mon fils, lui, il lit les trucs. Il commence à lire le russe. Donc il lit les trucs à l'écran et tout. C'est assez rigolo. Et moi, je lui dis, ah ouais, qui on prend dans les petites, dans les doshi, les âmes, les spirit boards pour rajouter. Donc on fait une espèce de jeu d'équipe comme ça. Et c'est assez rigolo. Et vraiment, je prends plaisir. Mais c'est assez, ce qui est intéressant, c'est que quand tu le bootes pour la première fois et que t'as le DLC, il te fait, et lui, il arrive. Et t'as tous les mecs du DLC qui arrivent. Et par contre, le line-up d'original, il y a genre 6 à 8 mecs. T'as 6 à 8, il faut que tu les regagnes tous. Et je dis, oh putain, va falloir qu'on fasse. S'il veut voir tous les personnages, il va falloir qu'on joue beaucoup quand même.
Faut que tu refasses du story mode ou.
T'as le choix.
Tu peux les débloquer en jouant en multi, d'accord.
T'as le choix. Soit tu joues en multi. Je crois qu'il y a 3 manières. Soit tu fais le truc spécifique qu'il faut faire pour qu'il arrive. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, dépasser les 300 km au jeu de sac, tu vois, c'est genre, je dis un truc au hasard, hein, dépasser 300 km au jeu de sac. Et là, t'as le personnage qui va venir, ou alors t'as le déblocage au niveau de temps, mais alors le niveau de temps, c'est genre, c'est vraiment des heures et des heures de jeu.
Ouais, faut jouer plusieurs heures. Hein.
Plusieurs heures de jeu. Soit, tu as un autre type de déblocage, c'est le déblocage sur le spirit board, enfin le Nadiège d'un quelque chose de l'espoir, enfin une espèce de carte qui est un mode story et tu traverses le mode story et t'as tout le temps des mecs.
Ouais.
Mais du coup, j'attends que mon fils soit là pour continuer, donc ça va prendre un certain temps. Et dans le genre de truc que j'ai rebooté Mario et les Lapins Crétins 2, que j'ai pas eu le temps de faire à 100%, et je me dis, mais ça vaut le coup parce que c'est un chouette jeu qui, à mon avis, a loupé son public. Parce que.
Alors, moi, tu vois, j'y ai pas encore joué, mais je l'ai.
Bah, c'est un 2. Donc, le premier était nouveau, exceptionnel, et donc le 2, bah, ça devient juste un jeu Mario parmi tant d'autres, tu vois. Pourquoi prendre celui-là plutôt que les modes de. Voilà. Donc,
ouais.
Je pense que. Mais ça, c'est vraiment que du marketing. Hein, ça paraît de voir avec la qualité de jeu.
Ouais. Non, il est dans mon backlog. Moi, tu vois, ça, dans les vieux jeux, comme tu parles de vieux jeux, ça m'a donné envie de refaire Mario Odyssey, en fait. Même si, et en plus, Odyssey, je sais qu'il y a eu un patch pour le coup.
Et Mario Odyssey, il y a un patch. Et là, par contre, celui qu'on a passé le plus de temps, c'est Mario 3D classique. Et celui qui comprend Mario 64, Mario Galaxy et le peu aimé Mario...
Mario Sunshine. Sunshine.
Sunshine, ouais. Et tu sais quoi, Mario 64, il a kiffé. Parce que l'idée de rentrer dans des tableaux... Mais tu sais, en fait, quand tu revois ces mécaniques de Mario qui existent depuis quand même 20 ans maintenant, ou 25 ans, mécanique de rentrer dans un tableau pour un enfant, c'est génial, quoi. Il fait, ah, oh, tu rentres dans le tableau, t'as toute une histoire qui se déroule derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, regarde où on peut aller et tout. C'était vraiment super.
Ouais.
Et donc ça, il a kiffé. Et ensuite, je lui dis, oh, je vais te montrer Mario Galactica. Donc Mario Galaxy. Et là, je lui dis, regarde, on a des planètes et tout. Et alors le truc, il comprenait. La pesanteur, c'est pas un truc que les gamins comprennent vraiment encore, tu vois.
Ouais.
Genre le truc de, ah, on tourne autour d'une planète, on a la tête à l'envers et tout, genre, mais ils comprennent pas complètement. Pourtant, on a révisé quand même, la Terre tourne autour du Soleil, mais ça l'a moins marqué.
D'accord.
Et par contre, je sais pas si c'est vraiment mon fils, hein, parce qu'il m'a dit, il veut voir plus Mario Sunshine. Mais parce que Mario Sunshine, c'est la plage, il y a un faux Mario qui vole et qui fait des tags et il me dit c'est pas bien de faire de la peinture, de mettre de la peinture dans la rue. Parce que pour mon fils, il me disait toujours, ah, les voleurs, il me disait voilà, tu sais, les voleurs, voilà en russe, les voleurs, c'est ceux qui écrivent des trucs dans la rue sur les murs et qui mettent pas les déchets dans la poubelle. C'est ça, les voleurs. Donc il associe vraiment le Mario au mauvais, quoi. C'est-à-dire, il a fait des tags partout, il faut les nettoyer dans la ville et tout.
Ouais.
Et je me rendais pas compte à quel point Sunshine, conceptuellement, est vraiment intéressant pour un gamin. Parce qu'il kiffe vraiment Mario Sunshine, quoi. C'est genre, il dit, vas-y, on retourne, hein, il va peut-être faire des trucs. Et peut-être lui, pour lui, ça vaut le coup de s'arrêter et juste effacer le caca que Mario, le faux Mario a laissé, quoi.
Moi, j'aime bien Sunshine, hein.
Je le déteste, mais maintenant, je suis obligé de l'aimer. Donc,
Non, mais moi justement le setting île tropicale, ambiance plage, soleil et tout, moi ça m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque, en fait.
Mais je trouve vraiment décevant par rapport à Mario 64, évidemment, parce que Mario 64 il inventait tout, il avait la grammaire, il avait le défi, il avait la richesse. Et Mario Sunshine, c'était ça faisait un peu datadisc pour moi, tu vois, c'est genre un peu le concept de jeu. Il manquait sans doute aussi 6 mois de plus pour.
Alors que tu vois, à y rejouer de nos jours, je trouve Mario 64 proprement injouable à cause de la caméra. Alors que Sunshine, ça passe encore. Quoi.
Ah, elle est plus dure, c'est vrai que la caméra est plus dure. Mais avec le stick C, ça va à peu près. Bon, voilà, j'ai tout dit pour moi et toi, alors c'est Mario Kart alors.
Bah, du coup, donc moi j'ai envie de refaire Mario Odyssey pour voir comment il bénéficie des améliorations apportées. Je ne sais pas exactement quelles améliorations sont apportées. Mais j'ai aussi payé comme un gros pigeon pour les versions améliorées de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. J'ai payé mes 10 balles le patch.
Alors attends. Tu t'es pas pris le Switch Online plutôt ?
Bah si, je l'ai. Ah non, le Switch Online, j'ai la version classique.
Ouais.
Pour avoir les patchs, il faut la version pigeon. La version pigeon aux US, elle coûte le triple de la version classique.
Elle vaut combien ?
Je crois que... Attends, il me semble qu'à l'année, c'est $59 la version normale.
Ouais.
Je revérifie.
C'est quoi, c'est $80 peut-être ?
Ah non, c'est plus du double.
Attends, t'es sûr ?
Ah oui, je suis sûr, aux US, on se fait vraiment pigeonner, quoi.
Et les magasins But présentent le juste prix.
Alors, je compare les prix. Voilà, c'est ça. C'est $20 par an le classique. C'est $50 par an avec l'expansion pack. Donc, c'est plus du double.
Je crois pas que ça soit très, très différent pour l'Europe, hein, tu sais.
En Europe, normalement, il me semble que c'est au pire le double. Mais aux US, c'est 150% plus cher, donc j'ai dit non, quoi.
Il me semble que c'est cher, mais abonnement Switch Online plus pack additionnel, c'est 40 euros.
Voilà, et l'abonnement classique, c'est 20.
Attends, il y a marqué entre 40 et 69 euros. Ah, tu sais quelle est la différence ? C'est si tu le prends en famille, si tu le prends en normal ou en famille. 40 euros solo et 70 familles.
Ouais, voilà, donc c'est bien ça. Donc si je regarde là, en France, avec le pack additionnel, c'est le double. Aux États-Unis, c'est 2,5 fois le prix.
Ouais.
Donc je dis non.
Bah écoute, si t'as pas envie de jouer à des jeux Mega Drive ou SNES ou tout ça. Enfin...
Ah, les jeux SNES, je les ai. C'est les jeux Mega Drive que j'ai pas. J'ai les jeux SNES, les jeux Game Boy et les jeux NES. Par contre, j'ai pas les jeux GameCube, j'ai pas les jeux 64, j'ai pas les jeux Game Boy Advance et j'ai pas les jeux Mega Drive. Mais à l'époque.
J'aime bien comment on te garde la N64 comme si c'était de la grosse rétention. Genre, ça c'est vraiment trop de la balle. Tu peux pas y jouer si tu payes pas cher.
Ça me manque trop, ouais. À l'époque, j'avais pris l'extension pour les jeux rétro et aussi parce qu'il y avait le DLC Mario Kart. Finalement, j'ai fait le calcul. Pour un an d'expansion pack, je peux acheter juste le booster pass de Mario Kart 8 et c'est ce que j'ai fini par faire, quoi. J'avais annulé mon abonnement classique et juste acheté le DLC à part.
Écoute, je te conseille, si tu regardes tout le rattrapage de online de Tsumimasen Turbo, le moment où on explique les prix... à Greg qui comprend rien. Genre, il dit quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on lui dit, ouais, non, parce que regarde, là, t'as le DLC de Zelda, mais si tu payes l'abonnement annuel, t'as pas besoin de l'acheter.
C'est inclus, ouais.
T'as pas besoin de l'acheter. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand t'as fini ton abonnement annuel, il se désinstalle?
Bah, tu n'as plus accès, oui.
Mais ça veut dire que le jeu se lancera en normal, c'est ça l'idée?
C'est ça.
Oh là là.
C'est ça, parce que je te confirme que si tu désactives ton abonnement premium, ce que j'ai fait. Quand tu essaies de lancer, par exemple, l'application N64 ou les DLC de Mario Kart, il te dit non, vous avez besoin d'un abonnement avec Expansion Pass pour y avoir accès. Donc j'ai payé pour Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et en fait, le truc, c'est que, alors oui, c'est beaucoup plus joli et surtout t'as 60 FPS et ça, c'est incroyable. Mais au bout de 5 minutes sur Breath of the Wild, je me suis dit, j'ai déjà fait 2 runs, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un 3e run, là, tout de suite ?
C'est pour le futur run. C'est pour un futur run.
Voilà. Peut-être que d'ici quelques années, j'aurai envie de refaire un run sur Breath of the Wild, mais là, tout de suite, non. Tears of the Kingdom, je l'ai fait qu'une fois, alors peut-être que je referai un run un de ces jours, mais voilà, bon. J'ai dépensé 20 balles pour voir que ça tournait mieux, et puis peut-être que je la ferai plus tard, mais à l'heure actuelle...
Mais beaucoup de gens vont faire ça, hein. C'est pour ça qu'ils ont mis un prix dessus. Hein.
Ouais, je pense, ouais.
En tout cas, moi, j'ai fait 2 runs chaque, et quand je les ai vus tourner, pourtant, tu sais que je suis pas un dieu du FPS, quoi. C'est pas le truc qui me saute le plus au visage. Mais là, j'ai vu le résultat et j'ai fait oh putain, c'est tout fluide, c'est tout beau, quoi.
La diff est quand même assez éclatante là, quand même. Faut dire ce qu'il y a, c'est très beau en fait, de le voir tourner aussi bien. Ça donne un peu envie quand même, donc peut-être que je craquerai, mais pour l'instant, je me dis j'ai tellement d'autres jeux à faire dans mon backlog de jeux Switch 1 que j'ai pas fait, que bon, voilà, quoi. J'ai d'autres priorités.
Mais parlons de Mario Kart un petit peu.
Oui, bah Mario Kart World, du coup, j'y ai joué assez extensivement quand des amis sont venus. On a beaucoup joué, en fait, j'ai plus joué en multi qu'en solo. J'ai un peu fait du free roam en solo, mais sinon, on a beaucoup joué en multi. je ne comprends pas exactement ce choix de Nintendo de t'obliger, quand tu fais des grands prix, de pas pouvoir faire les circuits en mode classique, à faire genre 3 tours, et de t'obliger à te taper les chemins intermédiaires entre les différents circuits, quoi. Il y a un choix là, alors peut-être qu'il y aura un patch un jour qui permettra de faire les circuits.
Les chemins intermédiaires, comment ça?
Alors, quand tu choisis de faire un grand prix, par exemple, le grand prix champignon, tu as tes 4 circuits, sauf que, il y a que le premier circuit sur lequel tu fais tes 3 tours. Entre le deuxième circuit, tu vas faire 1 tour, mais tu vas faire le chemin entre le circuit 1 et le circuit 2 de l'open world. Et arrivé au deuxième circuit, tu fais 1 tour. Et là, c'est terminé. Et pareil pour le troisième circuit, tu vas faire le trajet jusqu'au troisième circuit et 1 tour. Et là, c'est terminé. Et pour le quatrième circuit, tu vas faire le trajet jusqu'au quatrième circuit. Et là, tu vas faire 1 tour, des fois 2, des fois 3, des fois 5.
Ah, mais c'est ça. Parce que je me disais, il y a un truc chelou dans le déroulement des trucs. Et ça, c'est dans tout le mode Grand Prix, on est d'accord.
Et ça, c'est dans tout le mode Grand Prix. Et j'ai pas trouvé de moyen de faire des Grands Prix classiques avec juste les circuits sur lesquels tu fais plusieurs tours.
En multi, tu peux le choisir. Tu peux choisir, tu fais plus, et puis tu peux choisir les circuits en version normale.
Alors, en time trial, oui, mais en Grand Prix, je suis pas persuadé.
Ah, je suis pas persuadé du coup, du tout non plus, quoi.
En tout cas, j'ai pas trouvé.
Étonnamment, c'est le Mario Kart que j'ai le plus joué depuis le Wii. J'avais pas autant joué sur Wii U quand il est sorti.
Ouais.
Mais au début,
moi,
j'étais
le 8 Deluxe, je l'ai rincé. En multi, j'avais souvent des gens à la maison et on a beaucoup joué au 8 Deluxe, en fait. C'est pour ça que j'ai acheté le DLC, d'ailleurs.
Le 8 Deluxe sur... C'est-à-dire qu'à ce moment-là où est sortie la console, tu sais, il y avait quand même Zelda, tu vois. Et moi, j'avais joué à la version Wii U.
Oui.
Et surtout, il y a un truc, je pense que c'est le moment où mon attention pour Mario Kart descendait. Et là, je pense que c'est l'épisode de la réconciliation. Ce qui est très bizarre, parce que plein de gens se plaignent du tracé, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des longues lignes droites, qu'il y a beaucoup de place pour jouer. Mais ce qui est normal, t'as 24 joueurs, en fait, parfois par terrain.
T'as 24 candidats concurrents, ouais.
Et je peux dire qu'à 24 joueurs, c'est vraiment le bordel humain.
Ah oui, oui. Quand t'es dans le peloton, c'est vraiment le bordel absolu, ouais.
Tu te fais avoir par, 3 carapaces d'un coup, c'est vraiment, c'est très humiliant, même, souvent.
Mais il y a un petit côté grisant, si tu veux, tu vois, de retomber à la 17e place et puis de remonter 15 secondes plus tard dans le peloton de tête, quoi, dans le trio de tête.
Parce que souvent le jeu te favorise les accès à des items intéressants. Enfin, ou plutôt super efficace une fois que t'es dans les derniers, quoi.
Et puis il y a les nouvelles mécaniques qui sont assez cool, je trouve. Le fait de pouvoir grinder tout ce qui est rail et bordure, c'est plutôt cool.
Alors j'arrive pas le rouler du mur.
Et le wall ride?
Le wall ride, j'y suis pas encore.
J'aime bien ces nouvelles mécaniques parce que du coup, ça t'oblige d'avoir un peu de skill, quoi. C'est sûr que t'as toujours les items qui vont du coup te déglinguer, même si t'es le meilleur joueur du monde. Mais avec un peu de skill, tu peux prendre des raccourcis qui sont assez zinzin. Et c'est pour ça que le mode free roam est super intéressant pour découvrir les raccourcis sur les circuits, en fait.
Ah, ben ouais, c'est à ça que ça sert, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu dis, bon, bah écoute, moi je vais regarder. Ah, c'était quoi le truc que j'ai vu? Je me suis baladé. Il t'incite à faire de la balade et faire du repérage, en fait.
Ouais, et il t'apprend les mécaniques aussi, parce qu'il y a des pay switch que tu peux pas aller réussir si tu fais pas du wall ride ou d'autres trucs comme ça. Donc t'es obligé de...
Ah, c'est peut-être pour ça que j'y arrive pas.
Ouais, t'es obligé d'apprendre ces skill-là, en fait.
Non, mais bref, je pense que c'est un Mario Kart qui est le plus enthousiasmant pour moi depuis Mario Kart Wii, en fait.
Ouais.
Parce que Mario Kart Wii avait ce truc un peu popu. Mario Kart 8, il me semblait un petit peu plus compétitif, tu vois. Ça veut pas dire qu'il est pas compétitif, ça veut pas dire que celui-là est pas technique. Et je pense au contraire que la méta de ce jeu, elle est encore à découvrir. Parce que entre les sauts, entre les variations de sauts, les multisauts, entre les rides, entre le wall ride, je pense qu'il y a vraiment une marge pour essayer de comprendre les niveaux et tout ça.
Ah ouais,
et
puis
je sais pas si j'arriverai à autant m'appliquer, hein. Mais en tout cas.
Puis en 150cc, l'ordinateur, lui, se fait pas chier, il les prend les raccourcis et fait du wall ride et tout. Et alors, le nombre de hurlements que j'ai poussé, parce que genre, sur la ligne, je me fais doubler en 150 alors que j'étais premier tout du long. Enfin bref, c'est assez costaud. En 100cc, c'est très très abordable. En 150, par contre, ça devient un petit peu plus compliqué déjà.
Ouais, c'est un peu dur. Après, je crois que j'ai presque tout en or en 150.
Bah, c'est les 3 étoiles que je vise. Alors ça, par contre...
Oui, alors les 3 étoiles, c'est qu'il faut finir premier à toutes les courses.
Faut finir premier à toutes les courses avec un minimum de pièces à avoir aussi.
Et comment le reverse, on le découvre, le mirror en mode, je sais pas.
Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'or sur toutes les courses en 150, mais j'ai pas les 3 étoiles sur toutes les courses, donc
peut-être si t'obliges à faire les 50, hein, qui sait.
Peut-être.
Ça me ferait chier, hein, parce que les 50, c'est quand même...
En principe, non. Parce que, en tout cas, Mario Kart 8 Deluxe, il te comptait, si t'avais réussi, par exemple, le 150, il te les ajoutait déjà pour le 50 et le 100, en fait. Il considérait que tu avais réussi. Et je crois que celui-là fait un peu pareil, mais l'affichage est différent. T'as l'affichage des étoiles avant de choisir ta cylindrée. Donc, c'est un peu étrange.
C'est pas du tout le Mario Kart Open World que j'imaginais, hein. C'est vraiment, je pense que le truc, c'est que faut pas y chercher un Open World comme, par exemple, Forza, tu vois. C'est pas exactement le même type d'Open World.
Ouais. Alors, j'ai pas joué à Forza, mais pourquoi tu peux pas comparer, justement? Est-ce que tu peux expliquer?
Non, mais parce que Forza, il y a des espèces de quêtes, c'est très défini. À chaque fois, tu débloques un truc qui te fait rouler. Tout d'un coup, tu vas avoir une quête qu'il va falloir booster jusqu'à un certain point, certaines vitesses, sauter un certain truc, ou que tu t'arrêteras à un endroit et là tout d'un coup il y a une course qui va se déclencher. C'est un peu différent. Comme Forza conceptuellement ressemble plus à un jeu, tu sais, comme on appelle, de type Ubisoft, quoi. C'est, il faut se repérer sur la map, il faut aller à tel endroit et ce tel endroit il va se passer un truc, tu vois. Il y a des trucs à, typiquement là c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus l'esprit bac à sable, hein.
Ouais, jeu de bagnole open world, moi je pense à Burnout Paradise par exemple, qui me rappelle un peu ce que tu disais, où en fait à certains endroits tu peux démarrer une course, tu peux débloquer des trucs, mais tu peux vraiment te balader où tu veux, mais si tu vas dans certains points. Et là c'est un truc que je trouve vachement intéressant avec ce Mario Kart World, qui sont indiqués sur la map. Alors que dans Mario Kart World t'as rien indiqué, les P-Switch faut les trouver tout seul et tu sais pas où ils sont, quoi. J'ai trouvé ça assez audacieux.
Ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est vraiment, je sais pas s'il y a des complétistes de ça, mais en tout cas, ça va être.
Puis en plus, ouais, il y en a qui sont plantés en haut d'un poteau, et donc tu dis, il va falloir que je trouve un endroit pour sauter ou pour planer jusque là. Enfin, il y en a certains. Va y avoir du challenge.
Ouais. Écoute, je suis surpris en bien. Je suis super bien. Je sais que, en fait, je pense que dans ma vie, en fait, je fais exactement l'inverse de Puyo. Puyo, lui, il fait eh, et moi, je suis là. Ouais. En fait, c'est toute notre optique des derniers jeux, comme pour Clair Obscur, il est genre ouais. Moi, je suis ouais. Je suis vraiment. On est en train de suivre des courbes inverses, quoi. Tu vois, il y a vraiment.
Ah, j'ai pas joué à Clair Obscur encore, mais je peux dire que tous mes collègues sont emballés, en tout cas.
Ah, mais je peux comprendre. Hein. Moi, j'ai fini. Et...
De tout mon groupe de collègues, je dois être le seul à pas y avoir joué encore.
Ouais, c'est un truc de français. T'as pas joué au truc jeu français, là, machin?
Bah non. Eux, ils y ont tous joué. Tous les Américains, ils y ont joué, et moi non. Je suis le seul. Ils sont là. En plus, c'est un jeu français. Pourquoi tu y joues pas? Et je dis non, mais j'ai un backlog qui est long comme ça. Laissez tomber, les gars.
Ouais, mais ça vaut le coup. Et c'est pas très long, hein, pour un RPG. Je suis arrivé au dernier boss en 22h en allant tout droit. Mais vraiment tout droit. Hein. C'est-à-dire, il fallait que je...
C'est correct.
Ça, vraiment, je te spoil rien, mais par contre, conceptuellement, c'est très... J'ai joué à FF8, j'ai joué à FF9, et voilà ce que j'en ai retiré.
D'accord.
C'est très, très, c'est très intéressant, parce que les influences sont très bien digérées, je trouve.
Écoute, moi, j'ai pas encore joué à FF8 et j'ai pas encore joué à FF9, donc peut-être que ça me parlera différemment.
Et ça a la gueule, c'est ce que j'expliquais dans Soumimazen Turbo, c'est que... Ça a la gueule d'un jeu, bah, pas techniquement, hein, je parle pas de l'aspect technique, mais conceptuellement, d'un RPG sur PS3, comme si on avait continué à faire des RPG.
D'accord.
Tu vois, si on n'était pas parti dans le délire FF13, FF14 et ensuite FF15, tu vois, genre, bon, ben, on fait de la balade, on fait du free roaming dans la Pampa, tu vois, ça, qui n'a plus de sens, tu vois.
FF15, FF16, peut-être plutôt, parce que le 14, c'est le MMO.
Oui, mais même le MMO, tu vois, c'est pas du tout.
Ah oui, il y a de la balade, oui.
Et surtout, le combat est en réel, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Si le combat, il était en... Parce que DQ9, lui, il avait quand même le combat au tour par tour, tu vois, même si c'était un jour libre. Bref, je t'encourage, c'est ma reco cachée, mais peut-être qu'on va peut-être passer à nos vrais reco, Benji.
Bah oui. Non,
c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oh yes.
After Eight est un titre trompeur, tout ça, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. On vous recommande pas d'acheter une Switch 2. Enfin, peut-être qu'on n'a pas conclu vraiment le truc, c'est que...
Sur la Switch 2, écoute, je ne regrette pas mon achat, globalement, même si, pour l'instant, je vais surtout jouer à des jeux Switch 1 et puis à Mario Kart World. Enfin, et puis, j'avoue, je me tâte quand même sur Street Fighter, parce que, déjà, il est largement plus beau que sur Switch, sur Steam Deck. Et en plus, depuis ce matin, j'ai mis à jour le jeu sur mon Steam Deck, et le jeu ne reconnaît plus mes manettes, donc c'est un peu emmerdant, y compris le Steam Deck lui-même. Donc, pour éviter ce genre d'emmerde, est-ce que je vais pas le prendre sur Switch 2? Je ne sais pas.
Benji, toi qui es un bricoleur, qu'est-ce que je fais d'une Switch 1?
Alors, moi, ma Switch 1 qui était sous ma télé, bah, je l'ai emmenée au bureau. Donc, pour jouer à Mario Kart avec les collègues pendant la pause.
D'accord. Ok, d'accord.
En revanche, ah oui, un truc que j'ai pas signalé, en revanche, c'est que j'avais ma Switch 1. Ma Switch 1, j'aimais pas trop la promener. J'avais l'impression que j'allais péter les Joy-Con. Donc, du coup, j'avais acheté une Switch Lite. Et la Switch Lite,
t'as l'impression que c'est un peu plus solide quand même.
La 2 là, ouais, je suis super fan des Joy-Con magnétiques, je trouve ça vraiment super.
Alors, je suis fan, je préfère, mais je me connais, hein. Dans un mois, il y a des biscuits, il y a du machin, le contact se fera mal parce que... Et c'est le problème de toutes ces consoles, la Switch y compris, j'ai l'impression que toutes les consoles ne sont pas utilisées sur le long terme. Tu vois, quand tu me dis, il y a les câbles, le connecteur des câbles HDMI, ils font parce que tu joues trop à la console, je dis, ok, tu
vois, je c'est pas normal ça.
Non, mais ça, c'est ce qu'ils arrivent à ce genre de résultat. Voilà, c'est parce que j'ai l'impression que les consoles sont pas, et c'est pour ça qu'on avait les Joy-Con Drift, les drifts de manette PS5, tu vois, tous ces trucs, toutes ces machines n'ont pas à subir un joueur pendant 3-4 ans, tu vois.
Faut voir aussi que c'est des périphériques qui sont devenus tellement complexes. Je sais pas si t'as déjà pris le temps d'ouvrir une Switch ou d'ouvrir une manette de PS5, mais à l'intérieur il y a tellement de trucs dans tous les sens que c'est normal avec la complexité que t'aies plus de façon de la casser, quoi.
Alors j'ai ouvert une manette Xbox, si tu veux savoir, pour Xbox Series X. Et effectivement il y a beaucoup de trucs, mais en même temps ce que j'avais à faire était vraiment de l'ordre du clic-clac.
Ouais.
Donc ça allait. Bon allez, on passe à nos recos.
Bah non, j'ai pas fini moi.
Ah attends, d'accord, pardon.
Ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai une Switch Lite que j'emmène en voyage et à laquelle je joue au lit. Et donc du coup, avec cette Switch 2, je me suis retrouvé avec 3 Switch. Et tout ce qui est transfert de données et tout, jusqu'ici, c'était assez simple. J'avais ma Switch Lite en console principale, sachant que l'autre était tout le temps sous la télé, donc tout le temps connecté au net. Et donc, je pouvais passer de l'une à l'autre avec les cloud saves, ça se faisait très bien et tout, ça posait aucun problème. Sauf que Nintendo, depuis, ils ont inventé les Virtual Game Cards. Et les Virtual Game Cards, c'est de la grosse merde.
Ah ouais, c'est pas bien.
Mais vraiment, c'est nul à chier comme système. Bah, quand t'as plus de 2 consoles, c'est un merdier absolu. Ils n'ont pas du tout pensé aux gens qui avaient plus de 2 consoles. Alors oui, je sais, c'est un problème de châtelain, de bourgeois, d'avoir 3 machines, mais je pense aussi aux gens...
C'est que 3 machines, c'est rien comparé aux gens qui achètent les machines de luxe, les machines limitées, oui, et mais... tout ça.
Et puis je pense aussi aux gens qui peut-être avaient une machine, une Switch pour les parents, une Switch pour les enfants, qui maintenant ont une Switch 2, et qui n'ont peut-être pas envie de jeter une des anciennes Switch. Donc voilà, je pense que 3 Switch, c'est pas complètement inimaginable, même pour pas forcément des gens super forts.
Et c'est quoi le problème de 3, c'est-à-dire que tu peux prêter ta cartouche qu'à une personne?
Non, alors le problème, c'est qu'avec les Virtual Game Cards, en gros, t'es obligé de jongler en permanence, de retirer les Virtual Game Cards d'une console, et tu peux les lier, en fait, que tu peux lier que 2 Switch entre elles. Tu ne peux pas lier 3 consoles entre elles, et donc tu ne peux pas librement échanger des Virtual Game Cards entre les 3 consoles. Donc les Virtual Game Cards, tu oublies, le système il est pourri de base, mais heureusement, on peut encore faire l'ancien système avec console principale, console secondaire, mais... Et c'est là l'astuce qu'il a fallu que je découvre. Si tu essayes de télécharger un jeu que tu possèdes sur une console secondaire sans utiliser les Virtual Game Cards, en fait, le menu est très très mal foutu et de base, il essaiera de t'obliger à utiliser les Virtual Game Cards et il te dira, bah non, vous pouvez pas, cette console n'est pas liée avec la console principale. Donc, je t'explique mon setup, j'ai ma Switch 2 qui est là, ma Switch 2 et ma Switch Lite qui sont chez moi, qui sont liés, que j'avais liés quand j'avais installé les consoles, et maintenant je les ai, ils ne sont plus liés parce que ça foutu la merde. Et si c'est incompréhensible, c'est normal. Hein. C'est incompréhensible, je trouve, ce système. Et au boulot, quand j'essayais de télécharger des jeux que je possédais, ça me disait, bah non, c'est pas possible, cette console n'est pas liée avec votre console principale. Mais en allant dans les options de mon utilisateur et en activant le partage, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais ça c'est un truc du genre utiliser les licences online plutôt que d'utiliser les Virtual Game Cards. Et quand tu vas sur un jeu, au lieu d'appuyer sur le bouton par défaut pour installer le jeu, tu vas dans le sous-menu et tu dis « télécharger les données ». Et là, ça va t'installer ton jeu. Donc si jamais il y a des gens qui ont ce problème et qui galèrent et qui ne trouvent pas comment faire, sachez que quand vous voulez réinstaller un jeu sur votre console qui n'est pas votre console principale et qui n'utilise pas la Virtual Game Card, vous faites « télécharger les données » et ça va vous installer votre jeu quand même. Je remercie ce redditeur qui a indiqué ce tips parce que sinon j'aurais jamais trouvé tout seul et je serais en train de hurler que c'est complètement inutilisable avec plus de 2 consoles. Ça reste difficilement utilisable et j'insiste, je trouve ça incompréhensible pour le public visé. Je comprends toujours pas ce choix de Nintendo, de la Virtual Game Card. Si c'était aussi simple que d'échanger des cartouches, oui, mais cette histoire de lier 2 consoles entre elles, ça rend le truc mais vraiment imbitable. Donc voilà. Sachez-le, il y a moyen de faire sans, même si c'est un peu compliqué.
Pourtant, j'ai déjà touché à ce système, mais j'ai rien compris à ton explication.
Eh ben, écoute.
Mais genre, je découvre qu'il y a des menus que je connaissais encore pas.
Bah, moi, j'ai découvert, hein, je savais pas qu'il existait non plus.
Donc, acheter une Switch, c'est facile.
Mais si vous avez plus de Switch, bon courage. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Ouais, écoute. Et je pense aux darons qui vont être obligés de renouveler leur parking de Switch. Ils avaient offert je pense à lui très fort, un ami commun. Qui avait acheté une Switch 1 pour sa grande fille, une Switch 2 pour sa moyenne fille, et ben là, maintenant, il faut tout rechanger. C'est fini. Et ça fait un budget quand même, tu vois. Donc,
ça fait un budget, oui, c'est sûr. Mais tu vois, typiquement, un enfant, je sais pas si je lui donnerais une Switch classique, je lui donnerais une Switch Lite, c'est vachement plus solide.
Bah ouais, j'espère que la manette est plus solide que les Joy-Con.
Ouais, donc bon, a priori, ils ont eu des problèmes de drift aussi, mais je pense que 3 Switch pour une famille classique, c'est pas inimaginable, quoi. La Switch 1 des parents, la Switch Lite des gamins, et maintenant qu'il y a la 2, enfin bref.
Ça y est, on peut passer au reco ?
Ouais, ça y est, j'ai fini mon rant.
Tu veux un ice cream avec mon ami et moi ?
Casse-toi, sale gominée.
T'as fini ton rant, tu sais qu'à la fin on balance tes recommandations, tout ça.
C'est vrai.
Vas-y, balance ta reco.
Alors j'ai une recommandation un peu particulière, puisque c'est le cadeau d'anniversaire que m'ont fait mes collègues. Et alors, je dois t'avouer un truc, je ne les ai pas encore montés, mais je trouve ça incroyable. C'est des trucs dont j'avais vu des pubs en fait sur online et j'avais trouvé ça extraordinaire. C'est des dioramas et des puzzles 3D. Le site sur lequel tu trouves ça s'appelle Robotime. Alors le site c'est robotimeonline.com et j'ai notamment 2 puzzles 3D qui sont des espèces de tricky bille. Tu te rappelles tricky bille?
Oui.
Tu vois ce que c'est? C'est une espèce de jouet dans lequel tu as une bille en métal et il faut activer des interrupteurs pour permettre de déplacer la bille. Et il me semble que j'avais recommandé un jeu sur iOS qui était le même principe à une époque. En fait, là, c'est des puzzles 3D dans lesquels tu peux construire ton propre tricky bille. Donc ça, déjà, c'est cool. Mais ils font aussi des serre-livres et les serre-livres sont incroyables. C'est des petits dioramas. Donc si vous allez sur robotimeonline.com, vous verrez Book Nook. Et c'est des dioramas qui représentent soit une espèce de une petite rue japonaise avec un magasin de ramen, avec des cerisiers en fleurs, avec un magasin de vin, ou alors une arcade façon arcade parisienne, et d'ailleurs il y a marqué Paris dessus, donc on dirait vraiment une arcade parisienne. Et c'est des petits serre-livres. Alors est-ce qu'ils servent vraiment les livres ou est-ce que tu les mets entre des livres? La question se pose. Ils ont aussi des serre-livres en forme de train, où t'as l'impression que le train en fait sort d'un tunnel, et le tunnel c'est les bouquins qui sont entre les deux serre-livres, et franchement je trouve ça super. Alors maintenant, c'est des trucs à monter aussi. J'ai aucune idée de la difficulté du montage, mais honnêtement ça a vraiment une super gueule, donc moi ça va être ma reco. Alors peut-être que je reviendrai dans 3 épisodes pour dire bon en fait c'est de la merde, j'essaie de les monter et ça tombe en ruine, j'en sais rien du tout, mais je suis assez enthousiaste et je pense que je vais essayer de les monter au plus vite. Après, je dis ça, j'ai des Lego qui sont encore dans leur boîte depuis des années, donc peut-être que je vais pas les monter très vite. Mais je trouve ça vraiment super joli, en tout cas. Donc si vous avez des étagères avec des bouquins et quelques espaces libres, vous pouvez caler ça entre 2 bouquins et ça a vraiment une super tronche. Donc voilà, Robotime, le site c'est robotimeonline.com. C'est ma reco.
Je mettrai le lien dans la description.
Ouais.
Tu sais ce qu'on utilise comme serre-livre à la maison ?
Non, mais tu vas me le dire.
D'autres livres. Tellement
Oui, il y a ça aussi.
Ouais, tellement que tout bailleur, il n'y a pas de place pour les serre-livres. Et pour ma part, je vais recommander un stand-up que j'ai vu j'ai vu à l'instant, en fait.
Ouais.
Et c'est quelqu'un que tu connais bien, puisque c'est Sarah Silverman.
Ah oui.
Qui n'avait pas fait de stand-up depuis plus de 8 ans, et c'est son spécial sur Netflix, et qui s'appelle Postmortem. Et alors, accroche-toi, accrochez-vous sur le sujet. Elle parle du décès de ses deux parents, de sa mère, de son père et de l'épouse de son père qui était comme un peu comme sa mère,
sa belle-mère, donc
sa mère biologique, sa belle-mère, merci. Sa mère biologique est déjà morte il y a 7 ans, donc elle se retrouve dans un cas de figure où elle a plus de parents, et donc déjà c'est quelque chose auquel j'étais déjà toutouille, tu vois, j'étais vraiment emballé par l'idée, et en même temps c'est quand même un sujet un peu audacieux, parce que t'es parti pour une heure de ça et de blagues là-dessus, de blagues sur la mort, sur le décès, sur comment donner un sens à sa vie. Et son père, il avait l'air d'être un sacré rigolo, parce que c'est un père juif qui parle d'une grande voix. J'imagine que, tu vois, Jack Kirby devait ressembler à ça, tu vois.
D'accord.
Un mec qui est là pour dire ce qu'il pense, tu vois, sans aucun filtre. Et menacé de casser la gueule aux fachos. Et lui, par exemple, elle commence à lire les commentaires qu'il a laissés sur Yelp. C'est absolument hilarant. Et il a vraiment des vannes. Il a vraiment des vannes. En fait, c'est comme si leur mort a donné un sens à Sarah Silverman, puisqu'ils lui ont donné le suc pour faire uniquement ce spectacle uniquement autour de ce sujet. Elle parle vraiment rien, il y a vraiment pas d'autre chose. Si parfois elle, de temps en temps, elle fait une blague de cul pour dire je vérifie si vous êtes là,
ouais.
C'est pour vérifier que je teste, pour voir jusqu'où je peux aller. Et elle va assez loin, en fait. C'est vraiment très très loin. Et je pense que ça parle autant de la famille, de la transmission, évidemment, et ce que je trouve touchant là-dedans, c'est qu'elle trouve les mots justes, qu'on n'a pas forcément, parce que le deuil, ça prend pas souvent du temps, et parfois c'est encore plus long. Ma mère a décidé il y a plus de 10 ans, mon père, je crois que c'est 10 ans aussi, enfin vraiment, ça fait très longtemps, et pourtant c'est quand même quelque chose qui est très très difficile à accepter, même avec le temps. Et elle arrive à trouver les mots justes qui sont là pour, à la fois pour tracer des portraits assez honnêtes, c'est-à-dire elle y va pas de main morte, mais en même temps de leur rendre finalement hommage et de les rendre attachants. Et c'est ça aussi, de le faire exister, c'est de le faire exister par le moyen de biais de l'humour et par le biais de la, comme on le ferait en écrivant ou en faisant un portrait. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. C'est très casse-gueule. Mmh. C'est peut-être pas pour tout le monde, parce que je pense que ça aura forcément une portée chez des gens qui ont perdu quelqu'un. J'ai déjà perdu les gens qui me connaissaient enfant, tu vois, pour la plupart. Mmh. J'ai perdu ma grand-mère il y a 2 ans. Et du coup, on arrive à ce moment où, tu vois, où tu deviens la personne. Je suis bientôt une des personnes les plus âgées de ma famille, tu vois.
Ouais.
Et elle arrive à toucher à ce stade, à toucher la justesse de la justesse qu'il faut pour un sujet aussi sensible que ça. Donc je vous recommande, ça s'appelle Postmortem, c'est sur Netflix, et c'est vraiment, c'est, voilà, ici il y a un sujet à voir, un spectacle à voir sur le sujet plutôt, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment, je suis abasourdi par sa maîtrise, et en même temps c'est sur un fil rouge parfois, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà.
Est-ce que je t'avais déjà raconté mon anecdote sur Sarah Silverman ?
Alors, ouais, oui, mais est-ce que les auditeurs le savent ou pas ?
Je ne sais pas. Bon, après, c'est pas... C'est...
Bah écoute, fais comme si ça s'est... Ça c'est pas comme si j'étais pas au courant. Benji, non, je la connais pas.
Ouais, bon, après c'est pas l'anecdote du siècle, mais en gros.
Non, mais on est à l'épisode 186. Si les gens l'ont loupé, ça devait être dans les épisodes 20-30. Voilà.
C'est vrai. Bon, on était allé voir un spectacle écrit par un copain qui prenait des cours d'écriture à Upright Citizen Brigade. Donc UCB, qui est une troupe qui est extrêmement connue parce que elle a permis l'éclosion de talents Il me semble que Amy Poehler est sortie de là. Après son spectacle, on va bouffer au resto qui est juste à côté. Et alors qu'on est en train de manger et de faire guinguette, on voit arriver Sarah Silverman qui cherchait le valet pour garer sa voiture parce que elle avait un spectacle juste après. Et sauf que le valet n'était pas là et qu'on savait pas où il était. Et donc on la voit qui cherche dans tous les sens. Puis on lui dit bonjour. Et puis elle nous répond, c'est oui, vous sauriez pas où est le valet ? Non, on sait pas. Et du coup, on lui dit, installez-vous, prenez un verre. et elle s'est installée avec nous, elle a bu un coup avec nous, et voilà, pendant 10 minutes, on a tapé la causette avec Sarah Silverman, qui est une personne extrêmement gentille, et vraiment, les pieds sur terre, pas du tout, pas du tout, tu vois, la star qui se sentirait plus pissée, non, elle était vraiment super cool, et quand finalement le mec est arrivé, voilà, elle a pu se rendre à son spectacle, alors que c'était son spectacle à elle, hein, le public l'attendait, elle, c'est ça qui était quand même incroyable.
Elle devait arriver avec du retard, on va juger.
Ah oui, non, mais elle était à la bourre, enfin, c'était une catastrophe, mais elle s'est quand même posée 10 minutes avec nous, tu vois, donc,
ouais.
Donc voilà, c'est mon anecdote, moi j'ai trouvé ça super cool, et voilà.
Et voilà, et ben, si vous regardez le spécial de Netflix, vous aurez un point de vue, bah, évidemment, humour tendre, ça elle sait faire, mais genre... mais mélancolique dans la bonne manière. C'est-à-dire quand t'arrives à rigoler et à faire exister les personnes en racontant des anecdotes sans qu'ils aient l'air de lourdeaux, c'est pas gagné. Et ben écoute,
oui, puis faire rigoler avec un sujet pareil, pas évident non plus, donc ouais, c'est cool.
Voilà, écoutez, ça vaut vraiment le coup, c'est enregistré à New York en plus, donc à la maison mère, comme on dit, du stand-up, malheureusement pour LA. Benji, je crois que c'est tout pour cet épisode.
Ouais, bah c'est pas mal déjà.
Oui, on a fait beaucoup avec le petit bout de plastique de Nintendo.
Bah ouais, écoute.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur patreon.com/RPU. Merci de nous aider, comme ça on arrive à monter cette émission et aussi à la produire et aussi à vous la propulser dans les meilleures conditions. Merci encore de nous soutenir. C'est très important, merci à vous.
Bah oui, c'est vrai que ça paye l'hébergement, mine de rien. On s'héberge nous-mêmes et ça coûte des sous.
Ça paye l'hébergement, le montage. Bonjour Baptiste, notre monteur. Dites-lui bonjour, d'où que vous soyez. Même dans la voiture, dites-lui bonjour.
Baptiste qui est ingénieur du son, mais qui fait gentiment le montage pour nous.
Ouais, franchement, et il a monté le son des plus grands, des Franck, du Bosque, j'entends.
Voilà.
Des... je sais pas qui d'autre, mais je suis sûr des Michel Sardou, j'entends pas Drucker. Enfin, si, Drucker aussi. Michel Drucker aussi, je suis sûr qu'il l'a eu.
Je sais pas où tu vas avec ça, mais ok.
Mais il a monté les sons des plus grands de ce monde. Des grands de ce monde. Je suis sûr qu'il a eu Balladur.
Ah, ça, c'est pas impossible.
Bon allez, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Gros bisous. J'aurais dû préparer mon explication du partage de jeux sur Switch parce que c'était vraiment incompréhensible. C'était niveau Méniel qui explique Balatro, là. C'était, ça va pas du tout.
Ah non, mais c'est incompréhensible. Incompréhensible.
Ah, mais le truc, c'est que l'interface elle-même est incompréhensible. Hein. Honnêtement, tout le système de Virtual Game Card, de devoir lier ta console et tout, c'est imbitable. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc aussi compliqué. Vraiment, je comprends pas.
Honnêtement, j'ai réussi, après 3 minutes de préparation, à envoyer une cartouche à Jérôme. Mais il faut qu'ils soient dans la même pièce, bien sûr.
Ah oui, non, mais quand t'as que 2 machines, c'est assez simple.
Ouais.
Mais alors, moi j'ai vu arriver, de toute façon, quand ils ont présenté le système des Virtual Game Cards, j'ai vu arriver la baisse, je me suis dit, laisse tomber, avec plus de 2 machines, ça va être imbitable, et ça l'est, c'est horrible. Bref.
Parce que tu peux pas prêter un jeu sur les 2 consoles, c'est ça ?
C'est ça, parce qu'il faut lier les 2 consoles entre elles, en fait. Et si tu veux pouvoir aller sur la 3e console, il faut retirer le lien, créer un nouveau lien... Et
quand tu l'expliques comme ça, je comprends mieux.
Non, mais ça, c'est hors de question que je le fasse. Je peux pas passer mon temps à créer le lien et retirer le lien entre mes 3 machines. Donc, je passe complètement outre le système de Virtual Game Card.
Alors que Kojima te dirait, on est là pour créer des liens entre nous. Des bridges. Tu l'as, bridges ?
Je l'ai.
T'as joué à Death Stranding, hein ?
J'ai toujours pas joué à Death Stranding, mais t'inquiète pas que Monsieur Porter et Monsieur Bridges, je les connais.
C'est bon, t'as la ref ?
Oui, oui.
Est-ce que tu connais Hartman ?
Non, pas encore, mais...
Est-ce que tu connais Deadman ? D'après toi, c'est quoi alors ? C'est quoi ?
Je me demande un peu.
Bon, allez, c'est bon, je coupe.
Et moi.
Aïe.
Improduction, RPU.